cruzamento da Europa.
Rescrucha Europei.
Stavrodrome της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Marseille à l'occasion des rencontres d'AVROES qui cette année s'interrogent sur l'avenir de la démocratie en Europe et en Méditerranée. À juste titre, si l'on se rappelle qu'il y a 30 ans, presque jour pour jour, avec la chute du mur de Berlin et 2 ans plus tard avec la dislocation de l'URSS, il devenait évident pour les Européens, entre autres, mais ils n'étaient pas les seuls, que notre modèle, à savoir la démocratie libérale sur le plan économique et son pendant politique, la démocratie représentative, allait s'étendre par capillarité un peu par miracle au reste de la planète. D'abord, bien sûr, dans les pays d'Europe centrale et orientale, puis en Russie, en Turquie et progressivement dans le reste du monde. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan ont adopté des modèles autoritaires qui, sur le plan économique, connaissent un certain succès. Au sein même de l'Union européenne, des pays comme la Pologne ou la Hongrie défient les instances européennes en menant des politiques illibérales. C'est une situation qui perturbe les Européens qui n'ont jamais imaginé que leur modèle puisse être remis en cause. La démocratie est fragile, pour preuve en France. Une étude de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, réalisée l'an dernier, en 2018, met en évidence que 4 Français sur 10 seraient prêts à confier la direction du pays à un pouvoir autoritaire. Alors, la démocratie est-elle menacée en Europe? Nous avons posé nos micros au théâtre de la Criée, où se tiennent les rencontres d'AVROES, et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour, Justine Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique.
Effectivement.
Alfro Mastropaolo, bonjour, buongiorno.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Turin. Vincent Martini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste et professeur à l'université voisine d'ici, c'est-à-dire Nice. Vous avez publié un livre qui a eu un grand succès, c'était au printemps dernier, qui s'appelle « Le retour du prince », publié chez Flammarion. Ça fait référence un peu à Machiavel.
Oui, bien sûr. Le
père de la science politique. Et évidemment, on aura peut-être l'occasion d'en dire un petit mot au cours de cette émission. Puis vous êtes par ailleurs journaliste, collaborateur, un drôle d'hebdomadaire qui s'appelle Le 1, que l'on déplie comme ça. Et vous avez écrit un article sur le sujet de la démocratie.
Oui, la démocratie cette semaine, Le 1, justement, parle des soulèvements. Et donc, on parle beaucoup, évidemment, de l'actualité de la question démocratique au niveau mondial.
Alors, justement, à propos de soulèvements, on vient d'assister en France au premier anniversaire des Gilets jaunes. Les manifestations et les débordements, un peu habituels. Hein. Alors, en quoi ces Gilets jaunes sont-ils ou non, Vincent Martini, puisque vous avez écrit un article pour l'hebdomadaire Le 1, sont-ils l'indicateur d'un malaise de la démocratie en France et peut-être par extension en Europe?
Je pense que ce qui arrive avec les Gilets jaunes, c'est pas seulement lié à la France, c'est pas seulement lié à l'Europe. En réalité, les Gilets jaunes, ils sont le symptôme, un des symptômes très nombreux, d'une rupture de ce que j'appelle, ou ce que d'autres que moi encore appellent, comme Samuel Hayat, appellent une rupture de pacte fiscal. D'un côté, historiquement, la démocratie s'est construite sur l'idée que les citoyens acceptaient de payer des impôts, d'une part, et acceptaient d'élire des représentants, d'autre part, dont ils pensaient qu'ils étaient eux-mêmes en charge de gérer ces impôts pour leur fournir des services publics performants. Eh bien, ce à quoi on assiste, et qui, me semble-t-il, est caractéristique de la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a un déclin du sentiment que ces services sont efficaces ou performants justement pour assurer une sorte de cohésion sociale et qu'en revanche, la pression fiscale sur les plus défavorisés s'accentue. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en France, ce qui avait initié la crise des Gilets jaunes, c'était une augmentation de la taxe sur l'essence, que pas qu'en France, au Chili, par exemple, eh bien, c'est une augmentation du titre de transport qui avait créé cette étincelle pour les soulèvements. Et puis qu'au Liban, par exemple, c'est une taxe sur WhatsApp qui va créer cette étincelle. C'est pas un hasard que ça soit à chaque fois des taxes, parce qu'il me semble que...
une étincelle.
C'est une étincelle qui, en fait, évidemment, ensuite recoupe d'autres revendications beaucoup plus larges que celles-là, qui ne sont pas seulement socio-économiques, mais qui touchent ensuite, dans un deuxième temps, au sentiment que les populations ont, que leurs représentants ne les représentent plus. C'est-à-dire une rupture d'une sorte de pacte de légitimité entre les citoyens et leurs représentants, avec cette idée que les représentants, finalement, ne sont plus là pour représenter l'intérêt général, mais leurs propres intérêts, dénonciation d'une caste, ou alors des lobbies, ou alors, comme à Hong Kong, les intérêts d'une puissance étrangère. Eh bien, il me semble qu'il y a une indication là d'un danger, en tout cas pour la démocratie, d'une remise en cause de certains fondements qui avaient structuré la démocratie depuis un demi-siècle.
Justine Lacroix, si le monde qui nous entoure nous paraît un peu troublé, c'est aussi peut-être parce qu'il s'est énormément complexifié à partir des années 90 et qu'il s'est accéléré du fait de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie et de l'irruption du numérique. Comprendre le monde dans lequel on vit, ça devient très très difficile. Je vais prendre un petit point de repère, c'est d'un point de vue géopolitique. Du temps de la guerre froide, la lecture du monde, elle était très très simple. Il y avait le monde soviétique d'un côté, c'était les méchants, et puis il y avait les occidentaux de l'autre, c'était plutôt les gentils. Cette lecture du monde, elle n'est plus possible, elle devient très complexe. On s'y perd, on ne sait plus où on est. Et donc on a un peu peur et on remet en question notre mode de fonctionnement.
Oui, il y a certainement effectivement une perte de repères, une difficulté à lire le présent et à lire l'avenir. Si vous prenez les pays d'Europe centrale et orientale, ils ont quand même vécu, et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'y passe, ce qui est très très différent des phénomènes dont vient de parler Vincent. Je crois que c'est difficile de comprendre ce qui se passe en Europe centrale et orientale, notamment en Pologne et en Hongrie, si on n'analyse pas, au fond, le choc économique, culturel vécu par ces pays au cours des 30 dernières années, où leurs repères ont été en quelque sorte bouleversés. D'où un phénomène de crispation et de revalorisation de certaines valeurs dites traditionnelles. Par exemple, ces pays ont vécu une véritable saignée démographique. Je crois qu'on n'en a pas assez conscience ici quand on analyse les difficultés politiques qu'ils traversent. Ils ont vécu vraiment une migration en masse des jeunes Polonais, de la jeunesse hongroise,
des
jeunes Roumains. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des chiffres absolument...
Oui, la Roumanie s'est tapée, était peuplée d'environ 23 millions d'habitants en 1989, et aujourd'hui, on est plutôt autour de 18 millions.
Oui, et on ne comprendra pas leur crispation, par exemple, sur la question de la migration, qui paraît incompréhensible, parce qu'il n'y a pratiquement pas de migrants dans ces États. Mais en fait, et je crois que ça s'est assez bien montré dans un livre qui vient de sortir, là, de Ivan Krastev et Stephen Holmes, ils disent, en fait, ils se focalise sur une fausse menace pour ne pas nommer la vraie peur, qui est la vraie peur d'une forme de disparition programmée. Enfin, ça, c'est une façon peut-être de répondre à ce sentiment presque d'être touché dans son existence même, d'être menacé dans son existence même, qui peut expliquer aussi le succès alors d'alternatives que je dirais nativistes, qui visent à valoriser la famille, la tradition, une certaine forme de coutume face à une désorientation et une mondialisation qu'on pressent comme immaîtrisable.
Sur cette complexité du monde qui nous entoure, Vincent Martini, peut-être un mot complémentaire.
Certes, le monde s'est complexifié, ça c'est vrai. D'abord parce qu'on assiste sur la scène géopolitique à l'émergence de toute une série d'acteurs nouveaux. Ces acteurs nouveaux, ce sont d'abord les pays dits qu'on appelait du Sud.
Évidemment, hein, Chine, l'Inde, le Brésil, c'est des pays qui n'existaient pas.
La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, un certain nombre de pays africains, de pays asiatiques, le Vietnam, etc. Toute une série d'acteurs nouveaux qui sont plus sous influence ou moins sous influence qu'avant et qui revendiquent tout simplement d'avoir une voix au chapitre, qui fait qu'on a une multiplication des acteurs politiques. Complexification liée évidemment, c'est la palissade de le dire, à la multiplication des échanges très fortes qu'on appelle la mondialisation depuis la deuxième moitié des années 90 et qui font que finalement les décisions se multiplient et elles ont des impacts qui sont plus seulement locaux et nationaux, hein, pas seulement maîtrisables par les leaders, mais qui ont des impacts qui sont parfois démultipliés à la fois dans leurs conséquences, mais aussi dans la façon dont ils sont appréhendés par une opinion publique qui est de plus en plus mondialisée. Donc là, il me semble qu'il y a une dimension très importante dans cette accélération et dans cette complexification.
Alfio Mastropaolo, l'Italie est-elle aujourd'hui en train de devenir le laboratoire politique de l'Europe? Les Italiens ont monté beaucoup de choses au cours des dernières années. Évidemment, la politique spectacle et je dirais le populisme de paillettes avec Silvio Berlusconi, le populisme du numérique ou via le numérique avec le mouvement 5 étoiles, et puis aujourd'hui le populisme de gouvernement avec Matteo Salvini. L'Italie, c'est en train de devenir le laboratoire de l'Europe sur le plan politique?
Personnellement, j'ai l'impression que l'Italie, c'est un cas comme les autres. C'est pas très différent parce que, Berlusconi, c'était un télépopulisme, un populisme médiatique, mais il y a d'autres genres de populisme qu'on invente en Europe. Par exemple, de mon point de vue, Et je suis sûr d'être critiqué pour ça. Je me demande si Macron, ce n'est pas un technopopulisme ou un plutôt-populisme, par exemple. Donc,
on est tous populistes, sans doute,
dans le discours de Macron, il y a un côté antipolitique qui appartient au populisme, appartient à la tradition du populisme. Donc, on peut se poser cette question en premier lieu. L'Italie, c'est un laboratoire. Non, c'est un endroit où on a une grande vague, disons, de malaise démocratique. Donc, les citoyens démocrates des pays démocratiques sont insatisfaits des performances de leur pays et ils répondent et ils réagissent comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Alors, les moyens que les Français ont par rapport à ce qu'on rappelait, disons, le problème fiscal, je dis qu'il y a aussi un aspect dans nos sociétés, c'est celui que je définirais de maintien de la démocratie. La démocratie, les gens ne sont pas démocrates automatiquement, by default. Il faut les partis, ça servait à les maintenir en tant que démocratie, à s'occuper d'eux, à les cultiver, à les informer, à les amener à voter. C'est hyper, extrêmement important ce que les partis politiques faisaient.
Et cet équilibre est en train d'être rompu.
Ça a été rompu depuis longtemps. Alors, il y a d'un côté, les gens se sentent abandonnés du point de vue politique, à leur inégalité politique, et de l'autre côté, ils se sentent abandonnés à leur inégalité économique, sociale, etc. Alors, c'est tout ça ce qui me paraît important. Alors, on répond, chaque pays répond comme il peut. Alors, dans un système hyper centralisé, une monarchie républicaine comme la France, il faut descendre dans les rues. Et en Italie, on peut profiter des bois, on peut profiter des bulletins de vote et on vote 5 étoiles. Mais il n'y a pas une énorme différence entre les deux phénomènes.
Justine Lacroix, comment analysez-vous l'illibéralisme de Viktor Orban? On a parlé tout à l'heure à quel point les pays d'Europe centrale et orientale qui ont connu vraiment un vide démographique s'interrogent sur leur survie même. En tenant compte de ce que vous avez dit avant, comment vous analysez l'illibéralisme de Viktor Orban?
Oui, moi je trouve que l'expression démocratie illibérale, c'est une expression qui m'a toujours mis mal à l'aise. Elle a été revendiquée par Viktor Orban pour dire, au fond, voilà, nous on fait advenir un nouveau modèle de démocratie qui ne s'embarrasse plus des contraintes liées aux droits fondamentaux, liberté de la presse, liberté d'association, pouvoir judiciaire indépendant. Et je dirais qu'il a réussi un coup de maître parce que l'expression, enfin, qui n'était pas de lui évidemment, a été reprise même par ses adversaires politiques proclamés comme Emmanuel Macron. Et alors du coup, on donne un peu le sentiment qu'il pourrait exister quelque chose comme une démocratie sans les garanties de l'état de droit, sans les droits fondamentaux.
C'est pas le cas.
C'est pas le cas, évidemment que c'est pas le cas, parce que l'élection est un élément évidemment indispensable, nécessaire, mais non suffisant pour qu'il existe une démocratie digne de ce nom. Que vaut une élection si la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de presse n'est pas protégée efficacement, s'il n'y a pas indépendance du pouvoir judiciaire? Et donc ça m'ennuie parce que du coup, en plus, on rejette les droits de l'homme tout entier du côté du libéralisme. Or, je crois que l'histoire des droits de l'homme est beaucoup plus compliquée que ça. Et donc, ce qui se met en place en Hongrie, alors je ne suis pas une spécialiste de la Hongrie, mais pour ce que j'ai pu en lire, c'est un État semi-autoritaire. C'est pas une dictature sanglante, c'est pas le Chili de Pinochet, mais enfin, c'est un régime autoritaire.
C'est
un État mafieux aussi. C'est-à-dire, c'est surtout, je crois qu'on comprend, difficile d'analyser les phénomènes, le phénomène hongrois, sans tenir compte quand même d'une corruption. On peut, plutôt que de populisme ou de démocrature, moi, je parlerais de kleptocratie. Et ça vaut aussi pour la Roumanie, par exemple. Des États où des dirigeants élus, une fois au pouvoir, mettent tout en place pour gagner les prochaines élections.
Avec une petite nuance entre la Roumanie et la Hongrie,
oui,
c'est que la Roumanie a, par un grand nombre de manifestations et d'initiatives politiques, a chassé ses représentants aujourd'hui, en tout cas depuis quelques semaines, alors qu'en Hongrie, Viktor Orban est au pouvoir depuis des années et des années.
Oui, alors il a quand même perdu les élections municipales, donc ça c'est quand même un signe. Donc c'est pour ça que je dis, en fait on est quand même aussi devant quelque chose qui est relativement nouveau. Moi j'aime pas le terme de démocratie libérale parce que ça donnerait le sentiment qu'on est toujours dans le cadre démocratique. En même temps, je dis effectivement, c'est pas le chic Pinochet, et on peut perdre, le dirigeant en place peut perdre des élections.
Le mot démocrature, c'est-à-dire une démocratie qui a l'apparence de la démocratie, qui n'est pas une dictature, mais qui n'est plus une démocratie, ça correspond à la situation
pourquoi pas, ou un autoritarisme majoritaire, si vous voulez, ce serait pas mal non plus.
C'est le synonyme de démocrature. Là, juste un petit point de détail amusant, en Hongrie comme en Roumanie, maintenant les deux premiers ministres s'appellent Orban.
Oui.
C'est un point...
Non, mais je peux poser une autre question qui me paraît importante, là, ce que disait Mme Lacroix. Et c'est le fait que l'Europe est complice.
Oui.
On ne réfléchit pas surtout sur ça, généralement. L'Europe a posé des contraintes à tous ces pays pour les faire entrer dans l'Union européenne. Elle a posé des contraintes, disons, souvent très ridicules, parce que c'était avoir une cour constitutionnelle, des élections libres, une presse apparemment libre, etc. La conditionnalité, il y avait un traité de Copenhague, toi tu
bien sûr, traité de Copenhague, bien sûr, oui.
Et puis maintenant, l'Europe est tout à fait indifférente à ce qui se passe.
Alors, vous reprochez à l'Europe de ne pas être assez coercitive.
Bon, écoutez, si on fait part d'un accord international, des institutions, oui, votent, ils ont la possibilité de voter en Europe.
Alors, le problème, c'est que rien n'est prévu dans ce cas de figure, dans les traités européens. Il y a évidemment
on pourrait les suspendre.
Il y a des choses qui sont prévues. Il y a le fameux article 7 qui permet aux États, effectivement, de constatant violation de l'état de droit, de suspendre les droits de vote.
Mais qui requiert l'unanimité.
Il faut l'unanimité. Et comme, effectivement, la Pologne ne votera jamais contre la Hongrie,
alors, on va laisser un instant les Polonais, les Hongrois et les Roumains pour s'intéresser aux Britanniques. Le Brexit, est-ce que c'est pas en Europe et au niveau de la démocratie l'exemple qui fait un peu peur? Alors, on peut rappeler quand même à quel point le Brexit s'est construit sur une contre-vérité, sur un mensonge. Et j'aime bien citer l'exemple du bus de Boris Johnson qui, pendant la campagne électorale du Brexit, s'est baladé un peu partout et où il était écrit que chaque semaine, le Royaume-Uni faisait un chèque de 350 millions de livres à l'Union européenne et que cet argent serait mieux employé sur place au Royaume-Uni. Évidemment, mensonge, puisque le Royaume-Uni ne verse pas 350 millions de livres sterling par semaine. Mais quand même, aujourd'hui, Boris Johnson, il est le Premier ministre du Royaume-Uni.
Oui, bah je vois pas en quoi c'est un affaiblissement de la démocratie, d'une certaine manière.
Le mensonge.
Le mensonge. Les démocraties sont traversées par des mensonges depuis leurs origines. Je veux dire, on passe sa vie à mentir en France, en Italie, en Pologne, en Espagne, toutes les démocraties. Penser que la démocratie serait le régime de la vérité, c'est déjà mal penser la démocratie, première chose. Deuxième élément, il me semble qu'en Grande-Bretagne, on a une situation beaucoup plus paradoxale qu'on veut bien le dire, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a à la fois une démocratie qui est très robuste, qui résiste beaucoup aux attaques. On le voit par exemple par les mises en cause de M. Johnson qui essaie de suspendre les élections, qui essaye de les repousser, et une chambre qui résiste avec un collectif qui dit « c'est pas parce que vous êtes le Premier ministre que vous pouvez tout vous permettre hein ». Et ça, il me semble que dans un pays comme la France, par exemple, je ne suis pas totalement certain que si le Président de la République ou le Premier ministre prenait de telles décisions, il y aurait un quelconque contre-pouvoir qui pourrait s'opposer à eux. Donc avant de regarder du côté des Britanniques, il faudrait déjà qu'on regarde en France et dans le reste de l'Europe ce qui se passe. Non, ce qui, je crois, se joue ici... Et je reviens sur la question sociale, qui est une question très importante, c'est qu'il me semble qu'on assiste au niveau, là, maintenant, mondial, à une mondialisation de l'idée démocratique. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a un déclin de la démocratie, ça me semble totalement pas adapté à la situation. On est dans une mondialisation de l'idée démocratique qui fait qu'elle ne cesse de demeurer et même de devenir de plus en plus un point de référence pour des peuples qui étaient en transition démocratique, hein, des peuples comme les peuples chiliens, qui étaient certes une démocratie nouvelle, et qui demandent plus de démocratie, comme d'autres espaces dans le monde, comme le Liban, comme des espaces même qui nous semblent totalement verrouillés sur le plan politique, comme l'Irak. On a ici là une revendication démocratique. Ce qui peut-être nous surprend en Europe, c'est que c'est une revendication démocratique qui ne va pas dans le sens d'une conception européenne de ce qu'a été la démocratie, et notamment pas forcément une conception européenne de la démocratie. Alors Justine, tu n'aimes pas le terme,
moi,
je la crois. Tu n'aimes pas le terme de démocratie libérale. Peut-être que le rapport au libéralisme n'est pas le même, mais en revanche, je me sens que d'un côté, il y a une mondialisation de la démocratie, de l'autre, il y a la proposition de principes alternatifs de démocratie.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. Et on se retrouve dans 3 minutes à Marseille, dans le cadre des rencontres d'AVROS, pour la deuxième partie de Carrefour de l'Europe. A tout de suite.
rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Marseille, au théâtre de la Criée, dans le cadre des rencontres d'AVROS, avec une interrogation sous l'effet conjugué des populistes, de la mondialisation, du recul du pouvoir des hommes politiques. La démocratie est-elle menacée en Europe? Et la tendance de la première partie de cette émission, c'était plutôt non. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints au théâtre de la Criée. Justine Lacroix est politologue et professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Alfio Mastropaolo est professeur émérite à l'Université de Turin, et Vincent Martini est politiste et professeur à l'Université de Nice. Son dernier livre, Le Retour du Prince chez Flammarion. Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Courrier International a consacré un dossier aux fake news et à la désinformation, et le New York Times a constaté que les faits ne s'encombraient pas forcément de la vérité et même de la réalité.
Exactement, Daniel. Et cet article du New York Times, il se base sur un livre publié récemment, un ouvrage intitulé « Ceci n'est pas de la propagande ». Son auteur, Peter Pomerantsev, a la particularité d'être un Britannique né en Union soviétique et il a aussi travaillé pour la télévision russe de 2006 à 2010, expérience dont il a ressorti un constat frappant. À la télévision russe, selon lui, toute rationalité a disparu, tandis que campagnes haineuses et culte des personnalités font leur apparition aux heures de grande écoute. Avec son ouvrage, Pomerantsev, fils de dissidents russes exilés, juxtapose l'histoire de sa famille, qui s'est déroulée à une époque où les idées, l'art et les informations défiaient la tyrannie, et un présent où la vérité n'a manifestement plus beaucoup d'importance. Il écrit dans son livre, pendant la glasnost, cette politique de libération de la parole qui accompagnait la perestroïka à partir de 1985, la vérité était censée libérer tout le monde. À l'époque, les faits possédaient un pouvoir, et pour preuve, les dictateurs en avaient tellement peur qu'ils cherchaient à les étouffer. Or, les choses ont très mal tourné, nous avons accès à plus d'informations et de preuves que jamais, mais les faits semblent avoir perdu leur pouvoir.
Et comment l'explique Peter Pomerantsev ?
Eh bien, il cite évidemment les réseaux sociaux qui permettent une diffusion plus rapide de la désinformation, mais pour lui, de manière plus profonde, ce sont le désespoir et le cynisme à propos de l'avenir qui sont également responsables. Pendant la guerre froide, écrit-il, les deux camps étaient engagés dans un débat sur la capacité des deux systèmes, capitalisme démocratique et communisme, à assurer un avenir plus rose à l'humanité. La seule façon de prouver que l'on était en train de parvenir à cet avenir, c'était de fournir des preuves. Bien entendu, cela ne signifiait pas que les gouvernements disaient la vérité, mais seulement qu'ils tenaient à être perçus comme disant la vérité. Et c'est là qu'on arrive au nœud du problème, Daniel. Le Britannique note que de nos jours, rares sont les dirigeants qui affirment avoir une vision idéologique pour un monde meilleur. La marche de l'histoire a été remplacée par la volonté de pouvoir, en quelque sorte. C'est le New York Times qui le dit. Le plus grand défi, c'est peut-être dès lors de se convaincre que l'avenir n'est pas nécessairement cauchemardeste, qu'il existe une voie vers l'avant rationnelle et que chacun est maître de son destin. D'après le livre de Pomerantsev, les ténèbres autoritaires et la désinformation qui se sont abattues sur une si grande partie du globe sont la gueule de bois de la fameuse fin de l'histoire décrétée après la guerre froide. Si tel est le cas, l'un des meilleurs moyens de les dissiper, c'est peut-être de remettre l'histoire en mouvement.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International Hebdo et Courrier International le site. Alors, le pire n'est pas sûr, jamais sûr. C'est un peu ce que disait Sacha Mitchell à travers cet article du New York Times. C'est vrai qu'on est envahi aujourd'hui par la désinformation, les fake news, la contre-vérité, la post-vérité. C'est vrai qu'aussi, il y a quelques années, existaient déjà les rumeurs sans passer par le numérique, Vincent Martini.
Oui, il y a une formule de Bruno Latour que j'aime bien qui dit « la langue politique, c'est une langue courbe, c'est pas une langue de vérité ». On ne va pas renvoyer au fameux article de Anna Arendt où elle parle de vérité de fait, vérité d'opinion, où elle dit « Évidemment, la politique, c'est le règne des opinions, parfois des opinions plus ou moins frauduleuses, parfois des opinions plus ou moins informées. On peut s'inquiéter du détournement de certains faits, mais je crois qu'on devrait s'inquiéter plus largement du fait que dans les démocraties contemporaines, eh bien, on répète un certain nombre de faits qui comme des vérités, alors qu'elles ne sont plus ni des faits ni des vérités. Et je peux en donner un ou deux exemples, comme le fait, par exemple, que l'idée qu'on puisse, en travaillant dur, avoir une vie à la hauteur de ce travail, eh bien, on réalise que les mouvements sociaux en France ou en Europe manifestent contre cette réalité, en disant c'est faux, vous nous répétez en permanence que c'est une question de travailler dur. On travaille dur, on a un travail, mais on ne gagne pas notre vie. De la même manière que quand on répète en permanence qu'il suffit de produire et nous arriverons à des sociétés qui seront plus heureuses, eh bien on réalise ici que la catastrophe écologique, l'espèce d'inanité de cette production infinie, elle nous force à remettre en cause ce qui est perçu et répété par les élites politiques comme des vérités et qui nous semble là des mensonges. Donc encore une fois, quand on parle de fake news, moi je ne suis pas tellement surpris que les citoyens puissent être soumis à un certain nombre de contre-vérités ou de mensonges qui peuvent nous paraître plus ou moins aberrants. En revanche, il y a des mensonges fondamentaux qui structurent nos démocraties et qui nous imposent à nous de réfléchir justement à des modes alternatifs qui permettent d'arrêter de répéter ces choses-là pour au contraire inventer des imaginaires qui seront le meilleur moyen de lutter contre les fake news et non pas de contrôler les médias ou les réseaux sociaux.
Alors, un vecteur des fake news, c'est évidemment les réseaux sociaux. Quel est leur impact dans le système démocratique, Alfio Mastropaolo ? Est-ce qu'ils renforcent la démocratie par le biais d'une certaine forme de démocratie participative ou au contraire, est-ce qu'ils affaiblissent la démocratie par la diffusion instantanée et massive de tout et de son contraire ?
Il y a un livre américain qui vient de paraître, une recherche hyper intéressante qui raconte que le grand succès des réseaux sociaux est fondé par le fait que ce que les réseaux sociaux racontent est repris par la presse quotidienne, par la télévision, etc. Donc les réseaux sociaux, fort probablement, comme effet, ont des effets neutres, indirects, ou moins importants de ce qu'ils racontent. En plus, ils doivent raconter qu'ils sont importants, parce qu'ils vivent de la pub, ils ont besoin d'alimenter cette activité. Mais en fait, les réseaux sociaux, je ne crois pas que ce soit là le danger. Le danger, c'est que en politique, on ne peut pas dire la vérité, en fait. C'est pas si simple de dire la vérité. Parce que raconter la vérité aux gens, c'est extrêmement compliqué. Comment raconter aux Anglais que c'est un pays en déclin économique, en tout cas? Et donc, on déguise ce problème de déclin économique en leur faisant imaginer qu'à travers l'autonomisation, l'indépendance par l'Europe, ils réussiront à résoudre leurs problèmes. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui passe, qui est cruel. Alors, ça, c'est
Que l'on a envie d'entendre aussi, un grand nombre de Britanniques...
Que les gens sont contents d'entendre, qu'ils sont satisfaits d'entendre. Donc, la politique, c'est ça. Et comment ça va? Et donc, ça, c'est des instruments de manipulation. Ce qui reste important dans tout ce qu'on a raconté jusqu'ici, ce qui m'impressionne en vous ayant écouté, c'est qu'après tout, la démocratie reste un point de repère fondamental, incontournable. On ne peut pas s'éloigner de ça. Notre discours est fondé sur le principe démocratique. Si dans les années 30, on pouvait envisager la possibilité qu'un pays soit gouverné par un régime autoritaire, maintenant, un régime autoritaire est scandaleux, automatiquement. Personne n'est plus prêt à accepter. Ça pourrait changer, hein, parce qu'on n'est pas certain que ça dure toujours. Si on regarde des sondages d'opinion sur les États-Unis, il y a des résultats assez inquiétants. Mais sans doute, en ce moment, la démocratie est quelque chose d'assez stable dans notre imaginaire planétaire. Et puis, comment décliner la démocratie dans tous les pays, dans différents pays, avec des traditions différentes, ça, c'est autre chose. C'est autre chose sur laquelle il faudrait réfléchir. Mais...
Justine Lacra, vous aviez envie de réagir à ce que vient de dire Alfio Mastropaolo.
Je serais peut-être un tout petit peu moins optimiste que Alfio et Vincent. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec eux que la revendication démocratique qu'on peut entendre comme le refus d'être dominé de façon arbitraire, l'exigence d'une forme de justice sociale dont a très bien parlé Vincent, cette revendication, elle ne faiblit pas, elle est là, elle est présente. Par contre, peut-être pour ça qu'on mêle des choses différentes quand on parle de crise ou de fin de la démocratie, il y a quelque chose qui me semble vraiment sous pression aujourd'hui en Europe, c'est l'état de droit. C'est l'idée d'une égalité des droits, d'un pouvoir judiciaire indépendant, d'une séparation des pouvoirs. Hein, c'est sous pression, évidemment, en Hongrie, en Pologne, mais aussi en France, dans mon pays, la Belgique aussi. Pourquoi ? Parce que cette notion d'égalité des droits est de plus en plus... je dirais, menacé parce qu'on voit certaines catégories de population qui sont
fragilisées. Qu'est-ce qu'il a remis en cause, cette égalité de droit ?
Il y a plusieurs choses. L'angoisse identitaire, et donc, je parlais tout à l'heure de cette angoisse démographique en Europe centrale et orientale, mais angoisse identitaire dans nos États qui conduisent à une certaine forme de déshumanisation peut-être des migrants, du coup, qui, parce qu'on a cette crainte d'être envahi ou de perdre son identité, conduit à nier l'égalité des droits pour cette catégorie de population. L'autre facteur important, c'est l'exigence de sécurité, qui est très paradoxale depuis une quinzaine d'années. Alors, je vais peut-être choquer en disant ça, mais le fait est que nous vivons dans des sociétés qui n'ont pratiquement jamais été aussi sûr. Et en même temps, je vais peut-être choquer, je dis parce que j'ai l'air évidemment de minorer l'ignominie de ce qui s'est passé il y a 4 ans à Paris ou des attentats. C'est absolument pas mon propos, mais le fait est que nous vivons dans des sociétés de plus en plus sûres, mais où l'exigence de sécurité n'a jamais été aussi forte.
La perception est différente de...
La perception, oui, on a un refus du risque qui conduit à accepter de se laisser s'éroder certains droits pour certaines catégories de la population.
Ce qui est troublant aussi pour le citoyen, l'électeur, c'est aussi la faiblesse du pouvoir politique. Il y a 30-40 ans, le pouvoir politique maîtrisait toutes les clés de l'économie, de la sécurité, etc. Aujourd'hui, le pouvoir politique est très affaibli par rapport, par exemple, au pouvoir économique, Vincent Martini. Prenons un exemple. François Mitterrand décide de nationaliser un certain nombre de secteurs, par exemple la sidérurgie. François Hollande envisage de ne nationaliser 3 hauts fourneaux, il n'est pas en mesure de le faire 30 ans plus tard.
Ce n'est pas qu'il n'est pas en mesure de le faire, il est tout à fait en mesure de le faire s'il le souhaite. C'est que l'état de l'opinion n'est pas le même. C'est-à-dire que si François Hollande ne nationalise pas la sidérurgie ou 100% des banques et 100% des compagnies d'assurance comme François Mitterrand en 1981,
parce que les
banques, c'est qu'on en a tiré aussi des conséquences. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, non, sur cette idée-là, quand même, il faut faire attention sur la question du pouvoir des acteurs politiques parce que je trouve qu'on exagère en général leur faiblesse. Soit on exagère leur pouvoir, soit on exagère leur faiblesse. Soit on exagère leur pouvoir en imaginant qu'ils peuvent nous sauver sans que nous, les citoyens, nous prenions notre part dans cette responsabilité démocratique qui fait vivre un régime comme la démocratie, qui n'existe pas si nous ne participons pas d'une manière ou d'une autre, et pas seulement par le vote, à son exercice. Mais de l'autre, le danger inverse, c'est d'imaginer que les acteurs politiques n'ont plus de pouvoir. Alors certes, pour parler concrètement, en Europe, la France n'a plus le contrôle de sa politique monétaire. En tout cas, elle n'a plus le contrôle direct de sa politique monétaire. En revanche, elle peut tout à fait plaider sa cause auprès de l'Union européenne et faire un certain nombre de politiques. Mais dans les domaines des affaires étrangères, de l'éducation, de la sécurité, des affaires militaires, elle a absolument le contrôle. Le président de la République française, par exemple, particulièrement celui-là, a un rôle absolument considérable. Il a beaucoup plus de pouvoir dans son système politique, même que le président américain, puisqu'il a très peu de contre-pouvoirs, un nombre de leviers absolument extraordinaire. Donc c'est ça que je trouve un peu ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, on a en effet une attaque contre les acteurs politiques parce qu'on voudrait qu'ils nous sauvent, et de l'autre, on imagine qu'ils n'ont plus de pouvoir. C'est pas vrai qu'ils n'ont plus de pouvoir. Ils ont le pouvoir de changer beaucoup de choses.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Marseille, au Théâtre de la Criée, dans le cadre des rencontres d'Averroès, avec Justine Lacroix, elle est politologue et professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, avec Alfio Mastropaolo, professeur émérite à l'Université de Turin, et avec Vincent Martini, politiste et professeur à l'Université de Nice. Justine Lacroix, j'ai senti que vous aviez envie de réagir aux propos de Vincent Martini.
Non, c'était pour aller dans le sens de Vincent Martini, tout à fait, parce que tout à l'heure, il nous disait que ce qui lui faisait peur, c'était pas tellement les fake news, la manipulation de l'opinion, mais ces sortes de croyances qui nous seraient imposées. Et je crois qu'une des choses qui a été le plus nocive peut-être pour la démocratie au cours des 30 dernières années, c'est cette idée qu'on n'aurait pas le choix, notamment qu'on n'a pas le choix d'une autre politique économique parce que les marchés ceci, qu'on n'a pas le choix au niveau européen parce que on nous fait croire que les règles du pacte de stabilité, les règles qui sont fixées, tel taux de déficit, etc., ce sont des lois inscrites dans la nature humaine, en oubliant que ce sont des décisions politiques. Et ça, c'est peut-être... Mais je suis même pas sûre que les dirigeants soient responsables. Est-ce qu'ils ne se sont pas eux-mêmes convaincus qu'ils n'avaient pas le choix ? Et ça, c'est une démocratie où il n'y a pas le choix. C'est quelque chose est perdu du...
C'est plus une démocratie.
C'est plus une démocratie.
Alfio Mastropaolo, on a le choix ou pas ?
On a plein de choix. Si on voulait, on aurait des choix. Parce que, et vous verrez qu'on les trouvera, le moyen pour prendre des décisions et pour changer de politique. Parce que si on continue comme ça, ça sera la montée en puissance encore du populisme. C'est, donc, il faut trouver. Je veux dire, vous parliez de politique fiscale. C'est vrai, c'est la politique fiscale. On a des contraintes, surtout sur la fiscalité des entreprises. Mais fondamentalement, il n'y a pas une politique fiscale européenne. Si les pays européens se font de la concurrence fiscale, et naturellement les moyens de faire de la politique fiscale pour les États, les possibilités pour les États, alors la seule chose à faire, c'est de faire une politique fiscale commune.
C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, parce que les Irlandais sont très à cheval sur leur taux de 12%. Les Hongrois ont baissé le leur à 10%. Je parle de la taxe sur les bénéfices des entreprises. C'est plus difficile à faire qu'à dire, Alfred Mastropoulos.
Un jour ou l'autre, il viendra des élites politiques qui diront dans un certain pays où on fait comme ça, où je sors. Et on verra que les dégâts de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne seront élevés, soit pour l'Angleterre, soit pour l'Union européenne. Donc il faut se convaincre que la collaboration inter-européenne, c'est une collaboration fondée sur des négociations, sur des échanges. Et ils se sont donné des contraintes, les États européens, en ce qui concerne la compétition des entreprises, la privatisation, l'impossibilité pour l'État d'intervenir, la compétition fiscale, etc., qui sont extrêmement coûteuses pour chaque État. Il faudra qu'on en prend, on commence à comprendre. Les politiques que fait l'Allemagne, c'est des politiques qui vont bien pour l'Allemagne, mais qui ne vont pas bien pour la France, ils ne vont pas bien pour l'Italie, et sans doute ils ne vont pas bien pour la Grèce.
Vincent Martini, ce que vient de dire Alfio Mastropoulos, c'est que finalement, en Europe, le renforcement de la démocratie ne peut se faire qu'au niveau européen.
Alors, peut-être, mais surtout, je pense qu'il y a un point commun entre l'analyse qu'on peut faire de la démocratie et l'analyse qu'on fait de l'Europe, c'est qu'on voit les choses un peu trop en noir et blanc. C'est-à-dire qu'en gros, soit on considère que tout en Europe va très bien, que le système économique, faut le prendre comme il est, qu'il n'y a pas le choix, et que la démocratie telle qu'elle fonctionne, c'est merveilleux parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver en Corée du Nord. Ce qui est quand même un peu un discours ambiant qu'on entend au sein d'une partie des élites politiques et qui est profondément insatisfaisant, voire même révoltant pour une partie des populations qui voient qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Soit il faudrait dire qu'il faut tout jeter, que l'Europe c'est une catastrophe, revenir à l'État-nation et que la démocratie, comme on peut l'entendre ici et là, et ce que je trouve toujours un peu inquiétant, c'est pas vraiment la liberté et que dans le fond, bon, après tout, la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Il me semble que là, il y a une vraie difficulté à dire ça. C'est-à-dire qu'en gros, on disait tout à l'heure, hein, il suffit de passer, comme ça a été, moi mon cas, j'ai vécu en Égypte à l'époque de la dictature de Moubarak, il suffit de passer quelques années dans une dictature pour savoir la différence avec la démocratie. Donc, encore une fois, je crois que la première chose qu'il faudrait faire quand on parle un peu de ces sujets-là, c'est de se dire, bon, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la démocratie, mais la force de la démocratie, c'est que vous avez les moyens, les citoyens ont les moyens, dans une certaine mesure, de perfectionner la démocratie. C'est un régime qui a pour objectif de s'améliorer lui-même. Encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on le fait, ni les citoyens, ni les élites politiques. On peut d'ailleurs dénoncer les élites politiques parce qu'elles ne le font pas. On peut aussi peut-être critiquer les citoyens parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités démocratiques. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi se résigner à dire « Ah, on a les élites qu'on mérite hein. ». Mais il me semble qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ni pour l'Europe, ni pour la démocratie. On peut, et c'est mon cas, à penser que quand même la construction européenne a apporté un certain nombre de bienfaits et qu'on est mieux avec que sans pour autant se pâmer en pensant que la Banque Centrale Européenne, c'est formidable, que les institutions européennes fonctionnent de manière parfaitement démocratique et que le marché commun, c'est la panacée. On revient à ce que Justine Lacroix disait sur les alternatives. Le problème de l'Europe, c'est qu'on n'est pas capable de dénoncer ces problèmes tout en proposant des alternatives. Le problème de la démocratie, c'est la même chose. C'est pas une alternative à la démocratie. C'est une alternative à la démocratie telle qu'elle fonctionne maintenant et qui est peut-être, et qui est évidemment en crise, on l'a dit. Justine parlait de l'état de droit, on pourrait parler de la crise de la représentation, de la crise du leadership, d'une défiance généralisée des citoyens. Tout ça est absolument vrai. Évidemment qu'il y a cette crise-là. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on a envie de vivre dans un régime qui n'est pas une démocratie ? Non seulement je vous dis non, mais je dis aussi que les citoyens, quand vous les interrogez, comme dans les enquêtes du CEVIPOF, disent aussi non. Globalement, la plupart des citoyens européens considèrent que la démocratie est le moins mauvais des régimes, même s'ils considèrent que ces démocraties ne fonctionnent pas.
Je fais quand même référence à l'enquête de l'IFOP de 2018.
Oui, c'est l'enquête qu'on connaît. C'est l'enquête qu'on appelle le Strongman Syndrome, qui existe aussi au niveau européen. C'est-à-dire qu'en gros, en Europe, pas seulement en France, en Europe, environ un tiers des citoyens européens répondent oui à la question « Pour des raisons d'efficacité, seriez-vous prêt à suspendre les institutions démocratiques et confier un homme fort ?» Mais cette question, elle est problématique parce qu'elle ne nous dit pas grand-chose. Et d'ailleurs, en réalité, dans l'enquête sur les valeurs, et ça, c'est tous les travaux que fait aujourd'hui la science politique, notamment en analyse des questions des valeurs, qui est passionnante, elle dit attention, parce que aussi une grande partie des citoyens disent les acteurs politiques devraient plus nous consulter pour avoir des solutions. Donc la démocratie, encore une fois, c'est pas je veux ça ou je veux ça. Hein, c'est vraiment ambivalent, ambigu. C'est ce qui explique, par exemple, que les gens veulent de l'horizontalité, mais élisent des hommes forts. C'est ce qui explique que ils disent on veut participer, mais quand on leur propose de participer, bah, des fois ça marche pas, parce que tout ça, il y a un apprentissage. Et puis surtout, il y a des nuances.
Alors Justine Lacroix, parce qu'en écoutant Vincent Mattini, on comprend que la démocratie, c'est l'art de la contradiction et de la contradiction de chaque individu multiplié par 500 millions d'Européens.
Oui, c'est effectivement l'art du conflit, effectivement. Donc c'est un régime difficile parce que il repose effectivement sur la discorde, sur le conflit organisé. C'est aussi le régime de l'indétermination. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas, ça a été montré par un philosophe politique que j'aime beaucoup. C'est Claude Lefort qui disait c'est le régime de l'incertitude parce que effectivement, comme c'est le régime du choix. Et on ne peut pas déterminer à l'avance quelle va être telle ou telle politique adoptée. Mais moi, juste pour aller dans le sens de Vincent aussi, moi, c'est vrai qu'il y a un peu ce thème qui a couru là de peuple contre la démocratie en raison de cet essai à succès de Yasha Mung qui est paru il y a 2 ans, je crois. Et effectivement, alors on sort ces sondages, moi qui me laisse un peu méfiante parce que je veux dire, c'est un peu des sondages du genre préférez-vous manger à votre faim en dictature ou mourir en démocratie. Moi, je ne suis pas totalement convaincue qu'il y ait une sorte de révolte des masses contre la démocratie en Europe. Au contraire, ce qu'on a assisté en Roumanie, c'est effectivement à une levée du peuple.
Il y a eu des dizaines de milliers de manifestants l'an dernier pendant plein hiver et l'hiver roumain est rude. Qui ont manifesté avec le drapeau européen contre leur propre gouvernement parce qu'effectivement, l'Union européenne, c'était ce qui leur garantissait un état de droit quand leur état était un peu corrompu.
Oui, parce que ce qu'on dit peut-être pas assez, que ça n'a pas été, que ce soit en Hongrie, même en Pologne ou en Roumanie, ce qui s'était passé, c'est pas tellement la révolte. Moi, j'ai pas vu des foules envahir les rues de Budapest en réclamant un état fort. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des élections régulières et puis une élite politique qui s'est attelé à démanteler les autres élites politiques. Et donc, c'est plus l'avènement d'un régime autoritaire en Hongrie, c'est plus le résultat d'une lutte entre élites que la grande révolte des masses contre la démocratie.
Le monde est en train de changer. On sort de ce monde confortable que l'on connaît et on entre dans un nouveau monde. On sent bien que ça va être très, très différent. Alors, est-ce qu'il y a une place pour un système démocratique, une évolution de ce système démocratique dans ce nouveau monde? Ça, on se rapproche un peu du terme de l'émission. Vincent Martini.
Alors, oui, évidemment. Évidemment, parce que je le disais, la démocratie, c'est ce système qui ne vit qu'en essayant de s'approfondir. Hein. La démocratie appelle toujours plus de démocratie et on vit dans un système dans lequel on peut dire qu'un certain nombre de libertés privées, de tolérance vis-à-vis des modes de vie individuels, par exemple, c'est très fortement accentué en Europe depuis une dizaine d'années. Qui eût cru, lorsque Lionel Jospin avait fait voter le Pax à la fin des années 90, mais qu'il disait « la société française n'est pas prête pour le mariage homosexuel, pour l'adoption des enfants », qui aurait cru que 10 ans ou 15 ans plus tard, eh bien, la société aurait très profondément évolué? Je rappelais tout à l'heure que dans certaines enquêtes de valeurs, eh bien, à l'époque, on posait la question « seriez-vous prêt à épouser un ou une divorcée ?» Aujourd'hui, cette question nous paraît complètement absurde. Il y a une progression des libertés, en tout cas de la tolérance sur les modes de vie individuels. En revanche, et ça c'est ce que dit Justine Lacroix, et elle a parfaitement raison de le signaler, et on n'aura jamais assez de le signaler, il y a des pressions très fortes sur l'état de droit, il y a des pressions très fortes sur certaines libertés publiques, notamment au nom de la sécurité, qui me paraissent dangereuses. Donc je crois que ce qui doit structurer les prochaines démocraties, c'est pas tant la question de réfléchir le peuple contre les élites, c'est la question de savoir quels sont les droits collectifs, sociaux et politiques dont nous disposons. Est-ce que le système tel qu'il est en train d'évoluer vers une diminution de ses droits, ou est-ce qu'au contraire, il va en sens d'un renforcement de ces droits? Et les droits, c'est pas seulement nos libertés, c'est aussi les contre-pouvoirs qui peuvent s'opposer au pouvoir du prince, du chef. Et ça, c'est, il me semble, c'est ça qui fait vivre une démocratie. Je crois qu'il y a beaucoup de citoyens qui en sont conscients et qui se battent tous les jours, justement, pour que ça change.
Alors, est-ce que ça change dans la bonne direction, Alfio Mastropaolo? C'est vous qui allez avoir le mot de la fin.
Non, mais je me demande, parce que quelqu'un a dit, c'est pas le peuple contre la démocratie, mais on pourrait se demander si c'est pas la démocratie contre le peuple. Il y a un bouquin là-dessus avec...
Il y a tellement de bouquins,
ouais,
forcément.
Il y en a un de Wendy Brown qui raconte cette histoire. Que je trouve qu'elle dit des choses hyper intéressantes sur cet aspect. La démocratie, telle que c'est en train de se réaménager, de se reformuler, de quelque façon, on parlait tout à coup... il y a un moment de l'état de droit, mais il y a d'autres aspects qui sont assez inquiétants. Pensez au problème de la presse locale, par exemple. Aux États-Unis, la presse locale vient de disparaître. En Europe, la presse...
De manière générale,
est
effectivement...
Et en pleine crise. Ouais, c'est une réduction de liberté, tout non. ça. C'est une réduction de capacité de...
Justine Lacroix, votre mot de conclusion.
Oui, moi, juste pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je crois qu'un des plus grands défis, alors là, je n'ai pas eu toute la réponse, donc je vous rassure, je ne vais pas être longue, c'est comment repenser cette question des libertés privées avec la question de l'articulation du commun, et notamment comment préserver les libertés privées et la démocratie face au changement climatique qui va imposer, qu'on le veuille ou non, une réforme drastique de notre mode de vie et peut-être de repenser ce que nous entendons par liberté privée. Mais ce n'est qu'une question pour le moment.
Auquel on ne peut pas répondre, peut-être dans une émission à venir. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, ici à Marseille, au Théâtre de la Criée. Réalisation Guillaume Munier et Maître Chablaoui. Merci aux équipes des Rencontres d'Averroès et tout particulièrement à Thierry Fabre, qui en est le créateur et l'âme. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter, on est bien obligé de passer par là. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Paris, Marseille, Bruxelles, Rome, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Le débat africain.